Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. La RDC rencontre la Guinée ce soir en quart de finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Cependant, le sélectionneur des Léopards pense que la RDC n'est pas favorite et le sélectionneur de l'équipe nationale guinéenne de promettre de renvoyer les Léopards à la maison. Nord Kivu, des violents affrontements opposent en ce moment l'armée et les groupes armés locaux aux rebelles du M23. C'est dans plusieurs zones de Massissi et dans le Rutshuru. Les rebelles occupent des localités et collines stratégiques pendant que l'armée poursuit ses bombardements dans la région occupée, rapportent des sources locales. Et puis, l'invité de ce midi, Ahmed Benchek, consultant UNICEF RDC. Il nous parle de la validation mercredi à Kinshasa de l'étude sur le diagnostic de la capacité évaluative de la RDC, étude initiée par le ministère du Plan en collaboration avec l'UNICEF. Madame, Messieurs, bonjour. Le quart de finale de la 34e Coupe d'Afrique des Nations démarre aujourd'hui avec deux matchs au programme, à savoir Nigeria contre Angola à 18h de Kinshasa. La RDC joue la Guinée à 21h de Kinshasa, soit 22h de l'Est et du centre du pays. En conférence de presse d'avant-match hier jeudi, le sélectionneur des Léopards de la RDC, Sébastien Desabre, a affirmé que la RDC n'est pas favorite contre la Guinée. On l'écoute.
On joue grandement de chance, toujours avec la même optique, c'est-à-dire d'essayer d'être performant dans le match, de faire un bon match de foot, en répétant les principes de jeu qu'on a eu depuis quelques temps de ça. Donc on peut s'attendre à, oui, peut-être à un match ouvert, parce qu'on aura deux équipes qui vont essayer de jouer. La Guinée est une bonne équipe qui joue au ballon, donc voilà, mais l'objectif étant toujours le même, c'est de progresser de match en match, de s'améliorer dans nos points forts et d'essayer de réduire nos points faibles. Et puis après, favori contre la Guinée. Non, je dirais qu'on n'est pas favori contre la Guinée. C'est un match qui est assez ouvert contre une très belle équipe, avec la Guinée des joueurs qui jouent dans des bons clubs. Voilà, on aura par contre un plan de jeu, bien sûr, qui sera fait sur nos forces. On adaptera peut-être en fonction des quelques lacunes qu'on a pu voir, s'il y en a, parce que j'ai trouvé vraiment cette équipe de Guinée très très complète avec des bons matchs. Mais on a l'habitude, nous, de faire preuve d'humilité parce que on est encore perfectible, comme vous l'avez souligné. On a encore des marges de progression, mais aussi on est conscient aussi de nos points forts et de cette capacité où on sait que nous également passer cette étape.
De son côté, le sélectionneur du Sili National, Kaba Diawara, promet de renvoyer les Léopards à la maison. On l'écoute.
Moi, je vous dis que ce soit même des Martiens en face, c'est pareil. Et je crois que mes gars sont vraiment dans le même état d'esprit. Et c'est clair que demain, il y a soit vous, soit nous, on va rentrer à la maison. Ça, c'est la logique de cette compétition. On va essayer que ce soit vous. Et après, je ne sais pas comment on va jouer, mais on va tout faire pour vous renvoyer avec votre chicotte là. On va essayer de vous renvoyer demain.
Notez qu'en cas de qualification, la RDC empochera 2,5 millions de dollars. Et c'est un dossier signé Vanessa Nkongolo. Par ailleurs, les joueurs congolais doivent éviter l'esprit de suffisance et prendre leurs adversaires au sérieux s'ils veulent se qualifier pour les demi-finales de cette compétition. Ces propos sont de Denis Chipassa, analyste sportif et ancien entraîneur de plusieurs équipes de la région de Beni-Butembo, Nord Kivu. Mais il y a une autre clé de réussite de ce match, toujours selon cet analyste sportif. Denis Chipassa l'explique au micro de Grévis Salumu.
Il est vrai que aussi l'histoire n'est jamais été têtue. On bat toujours cette équipe de la Guinée. Mais la CAN qu'on est en train de vivre, c'est une CAN de surprise. Nos joueurs doivent être d'abord prudents. Il ne faut pas minimiser l'adversaire bien avant. Cette Guinée peut nous surprendre. Il faudrait que c'est nous qui soyons les premiers à ouvrir la marque pour décourager cette équipe. Cette équipe sachera que Banatupiga Gakela Siku, Manaki Banachakutupika. Mais si c'est Bienté qui commence à ouvrir la marque, il faut dire non, non, tout est possible. Allons-y, défendons. Et tout risque que de tourner à une situation catastrophique pour nous. Desabre est un bon technicien. Il est en train de varier les styles. Il doit se miser sur sa ligne offensive. Et pourquoi pas au milieu du terrain, puisque j'ai constaté que cette équipe guinéenne a un milieu du terrain peu écoriance. Il faudrait mettre au milieu du terrain les joueurs qui seront capables de gagner tous les duels du milieu du terrain, puisque si on parvenait à les étouffer dans leur camp pour ne pas monter ou bien créer des sensations vers l'offensive, j'ose croire qu'on pourra maîtriser cette équipe valablement et aller à demi-finale.
Je vous le disais en titre, des violents affrontements opposent en ce moment les FARDC et les groupes armés locaux aux rebelles du M23. Les hostilités sont signalées ce vendredi dans plusieurs zones de Masisi, précisément dans la région Karoubangungu, mais aussi dans le Rutshuru. Nous sommes bien au nord Kivu. Pendant que les rebelles continuent à occuper des localités et collines stratégiques, l'armée pour sa part poursuit ses bombardements dans la région occupée, rapporte plusieurs sources locales. Plus de détails avec Sifa Maguru.
Plusieurs sources dans le Masisi affirment que ces affrontements se déroulent à Arushoga et Humule, une région qui regorge des sites miniers, notamment les sites dénommés Mwangachuchu, Bisunzu et Rubaya. D'après nos sources, ces agglomérations seraient tombées entre les mains des rebelles jeudi après des violents combats. Les rebelles sont également visibles à Ruegeri, 10 km de Ngungu, indiquent nos sources. Sur l'axe Karuba Muremure, les rebelles seraient visibles sur la colline Gano, non loin des agglomérations de Kiluku et Chacha, dont les groupements Mofoni Shanga rapportent nos sources. Les acteurs locaux dans les Masisi s'inquiètent de cette avancée des rebelles dans les collines stratégiques, notamment des Chacha, où ils risquent de couper l'axe routier Minova Bweremana. Par ailleurs, des affrontements violents sont enregistrés ce vendredi dans les Bwito en territoire des Rutshuru. C'est notamment à Rushababwe, entre les groupements Bambo et Tongo. Des détonations d'armes lourdes se font entendre et la situation serait préoccupante, nous dit un notable du coin. Goma Sifa Maguru, Radio Kapi.
Au sud Kivu voisin, nous apprenons qu'un militaire des FARDC est condamné à la peine de mort pour meurtre. Le verdict a été rendu jeudi soir par le tribunal militaire de garnison de Bukavu, siégeant en matière répressive au premier degré et en procédure de flagrance. Le premier sergent Kingingi Innocent est donc reconnu coupable de meurtre pour avoir donné la mort par balle à une femme le mardi 30 janvier dernier à Panzi-Kamagema dans la commune d'Ibanda. Solidairement avec l'État congolais, il paiera également une somme équivalente en francs congolais à 40 000 dollars américains. Dans l'actualité aussi, les populations de Masisi et Rutshuru dans le Nord Kivu attendent impatiemment la récupération de toutes les entités occupées par les rebelles afin que les déplacés regagnent leur village pour pouvoir participer aux élections. C'est un des préalables qui paraît urgent avant d'envisager un quelconque calendrier des élections, a déclaré ce vendredi à Goma un notable élu de Rutshuru réagissant à la publication du calendrier des élections dans les trois territoires qui ont été privés des scrutins de décembre dernier, à savoir Masisi, Rutshuru et Kwamut. Emmanuel Ngarouye explique au micro de Sifa Maguru.
Pour nous, l'urgence aujourd'hui, ce n'est pas ce calendrier électoral parce que les entités comme Rutshuru, Masisi n'ont pas participé aux élections parce qu'elles sont occupées par les agresseurs. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas des efforts sur le terrain de libération de nos entités. Au contraire, ce que nous vivons, ce que nous voyons, c'est le renforcement chaque jour des militaires ougandais, des militaires rwandais qui viennent pour renforcer les rangs de l'ennemi. Et ce que nous voyons, c'est la prise des entités des localités chaque jour par l'ennemi. Maintenant là, l'ennemi est en train de se diriger vers Katsiru, Nyanzale, Bambo dans le territoire de Rutshuru. À Masisi, les agresseurs sont en train de se diriger vers Ngungu sans aucune résistance. Ce que nous attendons, c'est lever l'obstacle qui nous a empêchés d'aller aux élections, à savoir l'occupation de nos entités par les agresseurs.
Entre-temps, d'autres acteurs dans le Rutshuru ont salué la publication de ce calendrier, mais ils demandent au gouvernement de faire un effort pour restaurer la paix dans ces régions et à la CENI de respecter ce calendrier. Pendant ce temps, les partis politiques membres des regroupements politiques alliés à l'Union pour la Nation Congolaise, UNC, de Vital Kamerhe, réaffirment leur appartenance à l'Union Sacrée de la Nation dans une conférence des présidents de ces partis politiques tenue hier à Kinshasa. Herman Mbua, président du parti Force d'Avenir du Congo, l'un des alliés, condamne les actes qu'il qualifie de barbares et d'irrationnels dont a été victime Vital Kamerhe lors de la première plénière de l'Assemblée Nationale. Herman Mbua, au micro de Paul Matendo Mayamba.
Nous avons, n'est-ce pas, levé l'équivoque sur notre appartenance définitive à l'Union Sacrée de la Nation, mais aussi nous avons réitéré notre soutien indéfectible à la coalition Pacte pour un Congo retrouvé, PCR, qui travaille pour l'implémentation des actions du président de la République. Nous avons fustigé, mais surtout condamné les actes irrationnels qu'on a vécu lors de la cérémonie d'ouverture de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale, où notre leader avait été victime de certains actes barbares, de certains militants, des partis politiques bien sûr, en son encontre. Et nous avons donné une mise en garde sévère à l'endroit à la fois de ces militants, mais aussi de leurs instigateurs, que prochainement, il y aura une réaction proportionnelle à toute attaque visant notre chef.
Dans l'actualité aussi, la Ligue des consommateurs des produits au Congo, Kinshasa, Likoski, s'inquiète de la disparité du prix de carburant à la pompe dans la ville de Bukavu. La Likoski dit ne pas comprendre comment dans une même ville, un litre de carburant peut se vendre à des prix différents selon les stations-service, les prix qui varient entre 3000 francs et 4000 francs congolais. Ainsi, la Likoski demande au gouvernement congolais à travers le ministère de l'économie de revoir la structure des prix à la baisse en les rendant uniformes. Emmanuel Elamegi Wakabedi.
Actuellement, dans la ville de Bukavu, le prix du litre de carburant à la pompe varie d'une station-service à une autre. Alors que le ministère congolais de l'économie fixe le prix de litre à 3 970 francs congolais, à Bukavu, le litre se vend actuellement à moins cher, entre 3 000 3500 et 3800 francs congolais. La Ligue des consommateurs des biens au Congo Kinshasa exige l'uniformisation du prix de litre à la pompe. Mizo Kabare, président de la Likoski.
Il y a un phénomène au niveau de la ville qu'on ne comprend pas. Vous entrez dans une station service, on vous vend un litre à 3300. Lorsque vous allez dans une autre station service, les litres coûtent 3500, 3970, 4000. Alors on ne comprend plus rien. Nous savons qu'il y a une structure des prix que l'État a publiée, mais au regard de la situation que nous sommes en train de vivre, nous sommes en train vraiment de solliciter auprès du ministère des Affaires économiques de revoir à la baisse la structure des prix en question pour que nous puissions acheter les litres, pourquoi pas 3000.
Pour sa part, le club des pétroliers du Sud Kivu dit s'en tenir à la structure des prix fixée par le gouvernement congolais. Cette tendance à la baisse du prix de carburant s'expliquerait par l'abondance actuelle du carburant au Sud Kivu. Emmanuel Elamejo Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Province du Maniema, les leaders des églises protestantes ont été sensibilisés mercredi sur la présence de la lèpre dans la province et le rôle qu'ils doivent jouer en tant que communicateurs. Objectif, faire connaître à la population le danger que représente cette maladie dans la communauté. C'est la direction de la mission évangélique contre la lèpre en RDC qui a organisé cette rencontre. Reportage de Florence Kizalunga.
Selon le coordonnateur provincial de la lèpre, la province du Maniema continue à enregistrer des cas de cette maladie. Jusqu'en 2022, on avait recensé 55 cas, d'où la nécessité de sensibiliser les leaders religieux pour une prise de conscience. Yvonne Kabuo est la directrice de la mission évangélique contre la lèpre en RDC.
Nous sommes venus essentiellement pour sensibiliser les leaders des églises protestantes sur la présence de la lèpre dans notre province et aussi les sensibiliser sur leur rôle en tant que communicateur dans l'Église, sur le besoin de connaître la maladie, mais aussi de faire connaître par la population.
Selon les participants, au cours de ces échanges, ils ont appris beaucoup de choses sur cette maladie et comment l'éviter. Révérend Pasteur Kalema Tambwe.
Vous savez, il y a certaines maladies qui semblent être oubliées. C'est le cas de la lèpre. À l'époque coloniale, la lèpre était combattue. Cette séance de sensibilisation, elle a réussi parce que les échanges qu'on a pu faire nous a beaucoup aidé et nous a permis de comprendre que nous n'étions pas suffisamment informés.
Les participants ont promis de répercuter ces connaissances dans leurs communautés respectives pour l'éradication totale de la lèpre dans leur milieu. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale. Nous sommes au Cameroun. Soupçonné des multiples agressions sexuelles et viols, Herbe Bobda a été interpellé mercredi matin à Douala. Depuis une dizaine de jours, il était accusé par de nombreuses personnes via les réseaux sociaux. Figure de la jet set de Douala, âgé de 45 ans, ce fils d'un riche industriel camerounais est accusé au fil des récits d'être un prédateur sexuel ayant sévi pendant deux décennies. L'Ordre des avocats du Cameroun avait réclamé la semaine dernière l'ouverture d'une enquête. La commission des droits de l'homme du Cameroun s'était également saisi de l'affaire le 19 janvier face à son retentissement sur les réseaux sociaux.
L'invité.
Validation cette semaine à Kinshasa de l'étude sur le diagnostic de la capacité évaluative de la RDC initiée par le ministère du Plan en collaboration avec l'UNICEF. Cette étude vise à doter la RDC d'un plan d'action pour l'institutionnalisation de la fonction de l'évaluation en RDC. D'après le professeur Ahmed Benchek, consultant UNICEF RDC, l'évaluation des politiques publiques est une pratique importante dans une gestion axée sur les résultats pour promouvoir le développement de la RDC. Invité de Radio Capi, il répond aux questions de Michel Kifindangoy.
Professeur Ahmed, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes consultant UNICEF gouvernement congolais et vous travaillez sur l'institutionnalisation et l'inculturation de l'évaluation de programme en République démocratique du Congo. C'est quoi l'importance de l'évaluation de programme dans la gouvernance publique?
Écoutez, c'est une bonne question d'abord. Il s'agit d'un travail qui porte sur le renforcement des capacités évaluatives en RDC. Et dans le cadre de ce travail-là, il y a trois composantes essentielles. La première composante situe un état des lieux de la fonction de l'évaluation au Congo. Et une deuxième composante, c'est l'institutionnalisation de l'évaluation, la fonction de l'évaluation au Congo, qui est un plan, en quelque sorte un plan d'action qui va encadrer ce processus-là qui est prometteur. Et troisième axe, c'est une stratégie de renforcement de capacités évaluatives au Congo.
L'évaluation de programme, c'est encore une réalité très nouvelle pour les Congolais. C'est quoi la différence entre l'évaluation, du contrôle, de l'audit et des autres pratiques de gestion qui existent déjà dans ce pays?
Il y a plusieurs niveaux de différence en termes d'objets. Ils ne portent pas sur les mêmes objets. C'est-à-dire que, en termes d'approche aussi, si je vous dis, surtout en termes de finalité, dans le cadre de l'évaluation, on ne sanctionne pas. On apprécie en quelque sorte le mérite, l'utilité d'une intervention, une politique ou un programme ou une réforme ou une loi. Alors que dans le cadre, par exemple, de le contrôle ou l'inspection, il y a sanction de régularité. Donc c'est quelque part, ces fonctions de la bonne gouvernance sont complémentaires aussi. Complémentaires, en quelque sorte. Mais ça reste, l'évaluation reste comme une activité, je dirais, une discipline maintenant au niveau mondial, et qui porte sur l'appréciation systématique et objective et impartiale d'une politique, d'un programme. Cette appréciation se porte sur les résultats, sur la conception de l'intervention ou de la politique ou du programme, sur ses résultats, j'ai dit, sur ses conditions de durabilité, son impact potentiel. Donc vous voyez, c'est très ambitieux.
Donc, en quelque sorte, si une culture évaluative est instaurée en République démocratique du Congo, cela influencera en beaucoup de choses sur la gouvernance du pays.
Tout à fait, tout à fait. Donc, ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer le rapport du politique avec la chose politique, en quelque sorte. Parce que ce qui va changer, c'est que la méthode de gérer, de concevoir les politiques et les programmes, elle est tout à fait différente. Donc, quand on s'intègre dans une démarche de culture évaluative, donc, si vous voulez. Donc, il y a beaucoup de rigueur. Il y a beaucoup de rigueur. Et surtout, l'élément central dans cette démarche-là, c'est les changements, la question des changements. Que ce soit d'ordre humain, opérationnel, institutionnel ou impact.
Est-ce que le basculement en budget programme en République démocratique du Congo va avoir un effet très positif sur le développement du pays, mais aussi sur la pratique de l'évaluation?
En soi, c'est un grand changement, d'une part. Et donc, les basculements vont commencer à s'intéresser à la performance des programmes. Donc, c'est ça.
Alors, peut-être la toute dernière question. Qu'est-ce qu'il faut pour la RDC afin qu'on arrive à intégrer l'évaluation de programme dans la culture congolaise? Qu'est-ce qu'il nous faut? Quelles sont les étapes que vous avez prévues pour y parvenir?
Moi, je pense à travers cette étude-là et à travers un vrai processus au long cours, c'est à la fois institutionnaliser d'abord la fonction de l'évaluation, renforcer les capacités et surtout, notamment les jeunes, ce que j'appelle les évaluateurs émergents. C'est merveilleux ce qu'ils peuvent faire pour leur pays en s'intéressant à la question de l'évaluation des politiques, programmes, projets de développement.
Et dans le cadre de l'institutionnalisation, vous pensez qu'il y a des lois qu'il faut forcément voter?
Il y a non seulement des lois, il y a des politiques, il y a des lois, il y a de la réglementation, il y a des parce que les gens vont travailler selon des modalités qui sont nouvelles, qui nécessitent la promulgation de nouvelles législations.
Professeur Ahmed, je vous remercie.
Je vous en prie, merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.
Ahmed Benchek, consultant UNICEF RDC, répondait aux questions de Michel Kifindangoy. Par ici prend fin ce journal coordonné par Jacques-Yves Molima Aouta, Pierre Diassino à la technique. Merci d'avoir été des nôtres.